Transistor.
À l'école, l'élève doit être absolument protégé.
Transistor. Web.
Des handicaps et différences invisibles à travers le vécu d'étudiantes et d'étudiants. Dans le langage courant, quand on parle de handicap, c'est souvent l'image d'une personne en fauteuil roulant qui nous vient à l'esprit. Dans la réalité, 80% des handicaps sont ce qu'on appelle des handicaps invisibles, autrement dit, des handicaps qui ne se lisent pas sur le visage, qui ne se devinent pas au premier regard. Et c'est justement de ces handicaps-là dont on va parler. Aujourd'hui, on accueille Paul, qui est actuellement au lycée à Paris et qui est dyslexique. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors, d'après le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, la dyslexie, c'est un ensemble de problèmes d'apprentissage caractérisés par des difficultés dans la reconnaissance exacte et fluide des mots, un mauvais décodage et des difficultés en orthographe. Si le terme de dyslexie est utilisé pour définir cet ensemble spécifique de difficultés, il est important de spécifier également toutes difficultés supplémentaires éventuellement présentes, telles que les problèmes de compréhension de texte ou de raisonnement mathématique. Donc là, ce que je viens de lire, c'est la définition médicale, scientifique. Paul, comment tu décrirais la dyslexie avec tes mots ?
Je pense que ma vision de la dyslexie, elle est apparue au collège, parce que j'ai été diagnostiqué dyslexique d'abord au primaire. Mais au primaire, ça n'avait pas tellement été pris en charge. Et au collège, je suis arrivé du coup dans un collège qui, lui, prenait vachement bien en charge cette dyslexie. Et du coup, la manière qu'ils nous ont exposé en fait, la dyslexie et le fait qu'effectivement, qu'on raisonnait pas forcément de la même manière que les autres, etc. Et ben, en fait, ils nous ont juste dit que c'était une manière différente de penser ou de raisonner, ce qui faisait, qui était aussi la cause de la difficulté qu'on pouvait avoir à raisonner, à comprendre de la même manière que les autres personnes dans notre classe. Et voilà.
Et donc toi aujourd'hui, tu reprendrais cette définition-là ? Elle te convient, cette définition ?
Aujourd'hui, je pense que je me suis assez attaché à cette idée de différence de raisonnement. Et donc aujourd'hui, tel que je le vis, je verrais pas forcément ça comme un trouble, parce que avec les études que je fais aujourd'hui, je sens que dans certains contextes, j'ai l'impression, ou c'est peut-être propre à moi, que ça m'aide à raisonner et qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai au contraire plus de facilité que les autres. Et aussi, très clairement, là où ça devient très compliqué sur d'autres points.
Justement, donc tu parles de différence et tu dis que tu ne considères pas forcément ça comme un trouble. Mais est-ce qu'au début, on parlera du scolaire après, mais tu as pu le concevoir comme un handicap, comme un problème un peu à surmonter ?
Ouais. Au début, c'était vraiment un handicap parce que c'était absolument... et d'ailleurs, ça l'est encore aujourd'hui de devoir au primaire particulièrement recopier des poésies, faire un peu les travaux de fin de classe qui sont censés être faits rapidement et assez simplement pour tout le monde. Et là, c'était très compliqué pour moi, ça prenait des heures, ça me demandait une grande concentration et aussi ça me fatiguait énormément.
Et donc justement, tu viens de dire que tu as été diagnostiqué au primaire. Comment ça s'est passé ? Comment quelqu'un, je ne sais pas si c'est toi, si c'était prof, tes parents, qui se sont rendus compte que tu étais dyslexique ?
Alors, ça s'est passé quand j'étais du coup en CE2. Et donc, à cette époque, je vivais en Tunisie. Et ma professeure a très rapidement compris que c'était très compliqué pour moi et donc a voulu m'a invité à quand même prendre en charge, et du coup là j'ai fait un diagnostic avec une orthophoniste Et donc là, ça a commencé les cours d'orthophonie. Et la place des cours d'arabe en Tunisie, parce que du coup, ça devenait très compliqué d'apprendre l'arabe en plus. Et donc voilà. Donc à la place des cours d'arabe, j'ai allé chez orthophoniste.
Du coup, tu dis que la prof en question a très rapidement compris, mais est-ce que tu sais sur quel s'il y avait des signes exacts? Parce que tout à l'heure, tu parlais du fait de mettre du temps à recopier une poésie, par exemple. Est-ce que ça pouvait être dans ta manière de parler, dans le fait de pas réussir, oui, à réciter, à faire des calculs? Enfin, est-ce que tu sais quels ont été les signes précis et exacts?
Alors, je pense que c'était vraiment à l'écrit. À l'écrit, du coup, encore aujourd'hui, je pense, un peu compliqué de me lire. Et aussi dans ma lecture personnelle, de la manière dont je lisais. Et c'est l'âge là où on continue quand même un peu, on continue à apprendre à lire. Et du coup, oui, je pense qu'elle a dû le repérer dans cette période là où. Là où on a appris, mais on continue à découvrir l'écriture, la lecture, et à la repérer, ouais, les difficultés. Mais pas forcément à l'oral. Je crois que j'ai jamais eu du mal à trouver des, à parler, à trouver des mots, et donc, non, plutôt à l'écrit et dans ma capacité à lire, ouais.
Et tu disais qu'aujourd'hui, ça peut être encore compliqué de te lire. Est-ce que c'est par rapport au faux d'orthographe? Est-ce que ça peut être aussi sur la manière d'écrire, enfin la calligraphie, tout simplement? Qu'est-ce qui est compliqué en fait?
Ah bah c'est des fautes, ouais, des fautes d'orthographe, des fautes de mots, en fait. Enfin, non, mais y a rien qui va, y a rien qui va. Non, c'est très compliqué sur globalement, tous les points qui consistent à écrire un texte, la structure, voilà.
Donc tu expliques là que c'est ta professeure qui l'a compris en premier a priori. Comment ça se passe? Est-ce qu'elle en parle tout de suite à tes parents? Est-ce que eux avaient aussi des doutes? Est-ce que toi-même tu te rendais compte de quelque chose de différent?
Alors, non, moi pas du tout. Je m'en rendais pas compte. Mes parents non plus. Et donc, oui, non, c'est vraiment venu exclusivement de cette prof qui a tout de suite remarqué. Enfin, tout de suite, voilà, au bout de 3 mois. Et donc, non, mes parents suspectaient pas forcément ça. Et moi, j'étais jeune et oui, non, j'avais pas tellement.
Pas forcément de repères aussi pour te comparer, peut-être.
Ouais, aussi, ouais. Et pas forcément, en fait, pas forcément conscience de ma difficulté par rapport aux autres. Enfin, c'était pas problématique à ce moment-là. Donc, je cherchais pas des réponses à ma difficulté.
Donc à ce moment-là, tu me disais tout à l'heure, tu vivais en Tunisie. Cette prof qui le remarque, c'est une prof de français, c'est une prof d'arabe. Enfin,
C'est.
elle le repère en français, j'imagine.
Alors, c'est une prof de français, donc ma prof principale, enfin une prof qui me donnait tous les cours, quoi, prof de français, et donc cette prof de français, oui, qui le remarque, et aussi la prof d'arabe qui me dit, il n'y a rien à faire, quoi, il n'y arrive pas, et du coup, oui, et du coup, globalement, les deux profs se concertent, mais donc ça vient surtout de la prof de français, avec qui donc je passais la majeure partie du temps en classe, et ouais, qui diagnostique ça, enfin qui le repère et qui à ça suit le diagnostic de la dyslexie.
J'ai une question, je ne sais pas si tu es capable de répondre, si tu peux répondre, mais est-ce que tu sais dans quelle mesure le fait d'avoir deux langues, donc du français et de l'arabe, qui est quand même une langue avec, enfin, qui est très différente du français, avec un alphabet qui n'a rien à voir, etc., ça a pu empirer ce trouble-là, en tout cas cette différence?
Empirer dans l'apprentissage de l'autre langue ou empirer même de manière
De
générale?
manière générale.
Alors, en fait, de manière générale, pas tellement, parce qu'en fait, je crois que assez vite, j'étais de moins en moins impliqué dans les cours d'arabe, de par la difficulté. Mais j'ai remarqué dans d'autres langues, en fait, quand en vivant 6 mois en Angleterre, il y a 3 ans. Et ben, je devais passer un diplôme, le GCSE. Et du coup, j'ai fait des diagnostics en anglais de dyslexie. Du coup, enfin, je faisais des diagnostics en anglais et en français. Et j'ai remarqué que ce qui était assez amusant, c'est qu'en anglais, il y avait certains exercices ou tests qui étaient vraiment plus simples qu'en français. Je me souviens plus exactement desquels, mais je me souviens que j'étais à un stade où l'anglais était assez à l'aise parce que je le pratiquais tout le temps, matin au soir. Et c'était amusant de me dire que parfois sur des exercices, j'avais des meilleures notes en anglais qu'en français. Donc l'arabe, en fait, j'ai assez vite lâché, mais amusant le contraste des deux langues et du positionnement en tant que dyslexique face à la langue. Voilà.
Et je voulais revenir un peu sur la question du diagnostic. Donc c'est cette prof qui capte les premiers signaux. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des rendez-vous médicaux? Est-ce qu'on te fait faire des tests, des exercices pour essayer de mesurer un peu ton niveau, si ça existe vraiment de dyslexie?
Alors, en fait, du coup, le diagnostic, ça commence par un diagnostic de la dyslexie. Et du coup, en fait, il existe la dyslexie, mais il y a aussi la dysorthographie, la dyspraxie, la dyscalculie. Enfin, je crois qu'il y a plein de formes de dyslexie.
Et est-ce que là-dessus, toi, tu sais ce que tu as précisément?
Ouais, moi, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc là, donc, il y a eu le diagnostic. Et après, il y a eu des séances d'orthophonie avec cette dame. Qui était la maman d'un de mes amis. Donc ça n'a pas du tout été imaginé de manière médicale. C'était chez elle, dans un endroit que je connaissais. C'était très sympa. Et donc non, non, ça n'a pas été, c'était pas effrayant, c'était pas médical, c'était un cours un peu personnel, un peu voilà.
Et donc, au moment où tu obtiens le diagnostic, est-ce que tu te rends compte à ce moment-là de ce que ça veut dire, de ce que ça implique? Même si, de ce que tu disais tout à l'heure, tu t'en es pas forcément compte qu'il y avait une différence par rapport aux autres enfants?
Alors, à cet âge-là, vraiment pas. Non. Non, je pense que j'ai vraiment pas conscience de ce que ça implique. Et du coup, oui, cette compréhension, elle vient plutôt au collège, là où du coup j'étais dans un lycée là qui le prenait vachement bien en charge. Et là, on avait 2 heures par semaine, des moments là où un peu, en fait, tous les dyslexiques se retrouvaient. Les dyslexiques, mais aussi. Enfin, pas que des dyslexiques, il y avait aussi plein d'autres formes de personnes qui avaient des difficultés. Et là, c'était les moments là où, en fait, finalement, on en parlait avec cette prof. On lui disait ça, c'est compliqué, ça, on n'y arrive pas. Et là où aussi, elle nous expliquait ce qu'on avait. Et à cet âge-là aussi, elle nous l'expliquait un peu en nous expliquant que c'était finalement un peu une force, que c'était ou qu'on était un peu différent, mais qu'on pouvait en faire une force et donc à cet âge-là, ça a été vachement rassurant parce que j'étais non pas en détresse mais j'étais quand même en grosse difficulté scolaire et du coup pouvoir me dire ça c'était ça vite enfin ça m'aidait à moins me bah oui on peut très vite enfin se dire en fait je suis nul, je suis bête ou voilà et ça c'était quand même vachement agréable, vachement rassurant. Donc voilà.
Et même si tu ne comprends pas forcément ce qu'implique un tel diagnostic au moment où tu le reçois ou tu es encore en Tunisie, est-ce que tu en parles à tes amis?
Non. À ce moment-là, non. À ce moment-là, mais j'en parle. En fait, je pense que à ce moment-là, le truc est en fait est pas du tout grave, pas du tout dramatique, pas du tout. Et en fait, même mes amis, eux, je pense, eux non plus le comprennent pas. Parce que du coup, je vais chez cette amie et je suis avec sa maman et on travaille là-dessus. Du coup, en fait, je sais même pas si eux non plus le comprennent ou voilà, c'est un peu des, je sais pas comment l'expliquer, mais non, c'est pas, on en parle pas, c'est pas forcément un sujet.
Oui, pas forcément un sujet, pas forcément un problème non plus.
Non, non.
Donc quand tu dis que tu vois enfin, la mère de cette amie et que vous travaillez là-dessus, concrètement, vous faites quoi?
Concrètement, on fait des exercices de lecture de mots, lire par exemple des mots qui n'ont pas de sens. Donc en fait, en lecture un peu en syllabique quoi, aux mots. Lire des mots le plus vite, enfin le plus rapidement possible, là qui ont du sens, du coup, un peu voilà, enfin, voir le mot, le lire. Des exercices de repérage dans une grande feuille. Il y a, la feuille est remplie de B et il y a d'idées à trouver. Donc là, c'est ligne par ligne. Et en fait, là, sauf le travail des yeux, de la concentration. Et lire des mots à l'envers. C'était vachement axé sur la lecture.
Oui, donc à ce moment-là, il n'y a pas forcément encore trop d'exercices sur l'écriture, sur l'orthographe, etc.
Non. Mais j'ai pas le souvenir avec les orthophonistes que j'ai pu avec qui j'ai pu être d'avoir eu trop de choses sur l'orthographe. Parfois des rappels un peu des bases quand même, des bases de grammaire. Mais pas tant que ça, c'était surtout dans la visualisation des mots, dans l'exercice des yeux. Et du coup, suite à ça, j'ai aussi vu une autre docteur qui, elle, parce qu'en fait j'avais l'œil gauche qui était plus faible, je me souviens plus du nom de cette profession, mais qui partait un peu en cacahuète, quoi, qui partait sur le côté, et en fait, et donc c'était aussi la cause de ma difficulté à lire des textes et à avoir une grande fatigabilité sur la lecture des textes, parce que du coup j'avais un œil un peu à remuscler, en fait, voilà. Et donc c'était le sujet des cours, ça, voilà.
Et du coup, je me demandais, quand tu rentres en France, donc 2 ans après, en gros, est-ce que tu observes un décalage de la manière dont les profs traitent cette différence-là ?
Alors, du coup, je suis rentré en classe, en France, dans une classe de CM2. Et là, du coup, j'étais dans une école primaire, dans un petit village un peu paumé. Et en fait, là, ça disparaît un peu. Donc, je vois plus d'orthophoniste. Mais enfin, non, la dyslexie disparaît pas. Mais en tout cas, la prise en charge disparaît. Et j'ai l'impression que ça se passe pas forcément trop mal. Parce que je crois que c'était aussi un niveau d'exigence qui était pas le même dans une école privée française à l'étranger. Et une petite école de village en province. Et donc non, mon arrivée dans cette école en France, en CM2, bah là ça disparaît un peu, et c'est plus tellement un sujet, ça devient très compliqué, les dictées, des 6 dans tous les sens, voilà. Mais du coup non, c'est plutôt après, là où je le reprends en charge et...
Justement sur l'après, donc quand tu recommences à prendre en charge cette différence-là et que l'impact sur ta scolarité se fait vraiment comprendre, c'est quoi, ouais. C'est au collège. Comment tu le vis par rapport aux autres élèves ? Est-ce qu'il y a des moqueries, du harcèlement ?
Alors, du coup, dans cette école, c'était assez bien pris en charge. Et donc, en fait... Je pense que j'ai la chance d'avoir une dyslexie qui fait que, hormis l'orthographe et la capacité de lecture, mais donc pour ça j'avais des tiers-temps, ça n'influençait pas forcément ma capacité de raisonnement en mathématiques à petit niveau, en histoire et en français sur les interprétations. Donc c'est pas forcément compliqué sur des prises de parole à l'oral pendant les cours, mais en revanche un peu dur sur les rendus de devoirs en dictée, là où les notes sont un peu compliquées, passer au tableau. Encore aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à passer au tableau, à devoir montrer comment j'écris rien que ma calligraphie et l'orthographe. Donc là c'est pas forcément du harcèlement, mais c'est plutôt un peu une honte personnelle qui est de montrer publiquement la manière dont on écrit, et voilà, et l'orthographe et tout ça.
Par rapport à cette honte, tout à l'heure tu parlais de cette professeure qui était au collège, il me semble, qui parler de vos troubles en tant que différence et en tant que force, est-ce que c'est un discours qui t'aide ou est-ce qu'à ce moment-là, tu comprends pas encore à quel point elle peut avoir raison et à quel point ça peut être une force?
En fait, je le comprends et je l'assimile parce que bah, je crois un peu en ce qu'elle me dit, mais en même temps en fait, enfin, parfois c'est en fait on s'expose un peu au fait que en fait je vais un peu on s'expose pleinement à ce qu'on est, et quand on s'expose et qu'on s'expose pleinement à ce qu'on est devant les autres comme ça, et en fait c'est aussi que les autres ils ont pas forcément cette idée de la dyslexie, et donc en fait ils savent pas vraiment ce que c'est, et donc en fait bateau BATO, enfin ça c'est compliqué, et ouais, forcément là il y a un peu de moquerie, un peu de, mais du coup ouais, ma solution à ce moment-là c'est un peu aussi de me limiter à ces expositions. Et d'ailleurs, bah du coup, encore aujourd'hui, je me limite à ces expositions de devoir écrire au tableau ou envoyer un travail commun. Voilà.
Donc tu viens de dire, les autres, ils n'ont pas forcément une idée de ce que c'est que la dyslexie. Est-ce que tu essayes de leur expliquer, de leur faire comprendre à quel point en fait c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas et que tu as beau essayer, c'est une différence, donc ça ne vient pas comme ça.
Je crois que j'ai jamais eu cette non, j'ai pas eu cette envie de aussi en fait aussi leur expliquer, et ça serait aussi un peu leur dire c'est pas de ma faute, je suis comme ça, donc vous pouvez pas Je crois que j'avais plutôt envie de me dire ok, c'est une force, mais pas cache-la, mais sois pas et c'est te rends pas victime, ou voilà, pareil, essaie de paraître fort et un peu en fait, malgré cette dyslexie, moi je vais y arriver, quoi, et moi je voilà.
Et donc justement, cet état d'esprit de force et de « je vais y arriver malgré ça », est-ce que c'est quelque chose qui t'aide par rapport aux notes? Parce que tout à l'heure, tu parlais un peu en souriant des 6 en dictée, etc. Justement, au niveau des notes, comment ça se passe? Est-ce que ça t'aide, cet état d'esprit?
À la fois, ça, ouais, ça peut m'aider. Bah alors, des 6 en maths, enfin non, des 6 en dictée, j'en ai encore. Et donc en fait, je pense que je me dis que cet état d'esprit, mais il m'a plutôt fait prendre conscience de mes forces et me dire que effectivement, je sais pas si c'est lié à ma dyslexie, mais je suis peut-être plus fort, enfin, je suis plus fort qu'eux sur d'autres choses, et ils sont oui, ils sont bien meilleurs sur d'autres points, et donc ouais, donc cette force, je pense qu'elle me fait plutôt me faire
Accepter, peut-être.
Me faire, ouais, c'est ça, me faire juste accepter ma différence et me dire, ouais, en fait, bon, on est différents et du coup, on n'a pas les mêmes forces. Et moi, j'ai celles-ci et elles sont trop cool, mes forces.
Et même si voilà, là, de ce que tu racontes, on sent qu'il y a une force et une vraie volonté de montrer aux autres que bah, enfin, tu peux réussir pour autant, que ça t'empêchera en rien. Comment tu gères la potentielle pression qu'on te met sur la question des notes, des remarques des profs sur les bulletins, etc. Enfin, surtout quand on sait l'impact que ça peut avoir sur l'orientation derrière, sur l'entrée au lycée, etc.
Alors, bah, du, ouais, non, mais du coup, je sais que sur certains points, ça va me demander un effort un peu supplémentaire que les autres parce que forcément c'est plus compliqué sur certains points. Et du coup, cette pression, je sais pas si. Je pense que je suis pas spécialement, spécialement tendu et vite stressé par ces sujets-là. Mais je dirais aussi que j'arrive à les compenser par d'autres forces. Et je sais que ça va être compliqué et que c'est compliqué, c'est le bac de français qui arrive. Et c'est compliqué sur certains points. Mais j'espère en même temps pouvoir compenser sur d'autres matières sur d'autres matières et essayer d'être quand même le moins victime de cette difficulté.
Et je voulais un peu qu'on parle de tes aménagements. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait d'avoir un tiers-temps. Comment ça se passe? Est-ce que tu as un tiers-temps que pour les examens, pour les cours aussi? Est-ce que tu as la possibilité, par exemple, d'utiliser un ordinateur en cours? Enfin, quelles sont les choses qui sont mises en place pour pouvoir t'aider?
Alors, j'ai commencé, du coup, au collège. Là, j'avais accès à un tiers-temps et à un agrandissement des copies. Et pour le brevet, j'ai eu une secrétaire donc qui écrivait à ma place, ce que je lui disais. Et là au lycée, j'ai un ordinateur, je prends tous mes cours sur ordinateur. Et donc le tiers-temps, c'est pas possible sur les évaluations d'une heure, l'heure de cours. Et du coup, là, ce qui est mis en place, c'est juste un PAP. Et du coup, c'est le prof ne nous évalue pas, genre, deux questions. Et il les prend pas en compte. Mais donc, pendant ces aménagements, globalement, sur les épreuves officielles, on est mis dans une classe à part pour pas se retrouver dans un truc là où tout le monde part au bout de 3 heures et nous, on reste encore une heure. Donc, on est dans une autre classe et on fait notre tiers du temps en plus.
Et en plus de ces aménagements-là, tout à l'heure, tu parlais des nombreux rendez-vous chez l'orthophoniste que tu as eu plutôt plus jeune. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues encore aujourd'hui? Est-ce que tu as d'autres rendez-vous par ailleurs?
Pas du tout. Ça a continué au collège. Et donc là, au collège, je la voyais 2 heures par vacances. Donc c'était régulier, mais c'était pas hebdomadaire. Et donc aujourd'hui, j'ai arrêté et en Angleterre, ça avait repris quand j'ai fait mes 6 mois en Angleterre. Là, j'allais voir une orthophoniste, mais du coup en anglais. Donc c'était un peu particulier parce que j'étais en train d'apprendre l'anglais et en même temps... Mais donc c'était quand même assez intéressant, cette autre manière de vivre la dyslexie dans une autre langue. Parce que je sais pas dire comment, mais c'était quand même assez différent. Je sais pas, les difficultés n'étaient pas les mêmes.
Et justement, sur cette différence France-Angleterre, est-ce que sur le regard des gens, ça change quelque chose?
Le regard des profs en Angleterre, il était aussi doublement bienveillant parce que j'étais un étranger dans une école anglaise qui parlait franchement très mal anglais quand je suis arrivé. Et en plus de ça, ils étaient du coup au courant de ma dyslexie. Et du coup, c'était un regard très bienveillant vis-à-vis de ça. Et donc, c'était pas du tout compliqué à vivre. Et aussi que j'y étais pour une année de césure. Donc, je savais que les notes, c'était pas forcément la priorité. Et que j'y étais surtout pour l'anglais à fond. Et donc, non, ça n'a pas été trop problématique et gênant à ce niveau-là.
Et maintenant, il y a la question de l'orientation aussi, parce que donc là, tu es en classe de première, donc tu as bientôt le bac de français qui arrive. Et l'année prochaine, il y aura Parcoursup et un peu toute cette question de l'orientation. Déjà, tu me disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, que tu étais dans un lycée spécialisé sur les questions d'hôtellerie.
Oui, c'est ça.
Est-ce que ça, c'est un choix qui est dû à ta dyslexie?
Oui, complètement, oui. Complètement. Parce que se savait que les matières générales sont quand même peut-être sont moins approfondies dans ces lycées technologiques et donc oui ça l'a influencé pardon, mais euh, mais à la fois, en même temps, je savais ce que je voulais faire et j'en avais très envie. J'en avais très envie. Donc, ouais, non, globalement, en fait, j'étais sûr de moi, mais en plus, ça, c'est quelque chose qui a confirmé l'idée que c'était plutôt une bonne orientation pour moi.
Oui, du coup, tu dirais pas qu'à la base, c'est parce qu'il y avait un frein pour aller vers ces matières un peu plus générales, un peu plus classiques, que tu es allé en hôtellerie. Il y a quand même à la base une envie quand même assez profonde en toi.
Non, non, vraiment pas. Non, non, j'étais déjà convaincu que je voulais faire ça. Ça a confirmé mon choix, c'était un point. Mais j'étais assez convaincu. C'était aussi un peu j'étais convaincu que je voulais faire de l'hôtellerie, mais à la fois, j'aime aussi ces matières générales. J'aime bien le français, j'aime bien l'histoire. Et donc, j'étais quand même aussi à la fois un peu triste de m'éloigner de ces matières. Et malgré le fait que j'étais sûr de moi, me dire aussi, c'est un peu par dépit, parce que forcément, en filière générale, ce sera plus compliqué sur ces matières-là. Voilà.
Et justement, là, même si tu fais le choix d'aller vers une filière où il n'y aura pas toutes ces matières générales, est-ce que tu sais si de manière concrète, cette dyslexie, ça devrait fermer des portes pour certaines disciplines, potentiellement certains métiers? Enfin, là, moi, les premiers auxquels je pense, c'est les métiers un peu littéraires, donc le métier de prof, le métier de journaliste, etc.
J'ai toujours cette idée, mais je sais pas à quel point ça va me fermer des portes, mais de devenir prof de théâtre, c'est quelque chose que j'ai dans la tête aussi. Je sais pas si j'arriverai à le réaliser ou si ça passera, si je le ferai. Pour l'instant, je fais un peu mes études. Mais c'est une idée que j'ai en tête. Mais non, non, je pense que je sais pas à quel point j'aurais pu le faire aussi si j'avais choisi cette voie directement après.
Tu sais, s'il y a des gens qui le font, je sais pas si tu connais, si t'es en contact avec d'autres personnes qui sont dyslexiques et qui ont fait ce choix d'aller vers des matières générales, même si ça les impliquait beaucoup plus de travail et beaucoup plus de difficultés.
J'ai des camarades dyslexiques avec qui j'étais au collège, et en fait finalement tous dans mon entourage en tout cas aujourd'hui sont en filière technologique, en CMG, en bac professionnel. Donc non, j'ai pas en tout cas dans mon entourage les dyslexiques que j'ai eu dans mon entourage, ils se sont pas vraiment orienté vers ces filières générales.
Et donc là, dans ton lycée spécialisé sur les questions d'hôtellerie, c'est quoi la part de matière générale? Parce que donc, t'as quand même un bac de français à passer à la fin de l'année. C'est quoi la part de matière un peu classique? Et est-ce que tu arrives à gérer cette part-là?
Alors, on a du coup 11 heures par semaine de matière spécialisée. Et du coup, tout le reste, c'est des matières générales. Donc, c'est des français, des maths, enfin, histoire, etc. Et donc, j'ai pas fait le comparatif par rapport à niveau heure de cours par rapport aux autres filières. Mais donc, on a 3 heures de français, 3 heures de maths, 2 heures d'anglais, non, 2, 3 heures d'anglais et espagnol, et 5 heures d'économie hôtelière, 4 heures de cuisine et de salle, enfin voilà.
Moi, je me demandais, c'est un milieu que je connais pas du tout. Est-ce que l'année prochaine, quand tu seras en terminale, il y aura quand même toute cette question de Parcoursup?
Alors, ouais, oui, parce que du coup, après le bac, il faut intégrer d'autres écoles. Et donc, soit je reste moi dans mon école, mais donc c'est quand même Parcoursup. Donc c'est des lycées, c'est passé un BTS. Ou sinon, il y a les grandes écoles privées d'hôtellerie comme Ferrandi, Vatel, voilà, qui elles sont sous dossier et sous entretien.
Et que ce soit par Parcoursup ou les écoles privées, est-ce que tu comptes Je ne sais pas si ton diagnostic est déjà écrit sur ton dossier, si c'est visible, et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu comptes le dire, le mettre en valeur?
Si, il est écrit sur mon dossier. Non, je pense que j'aurais pas de. Ça me gêne pas de le mettre en valeur à partir du moment où il y a quand même des aides qui sont quand même assez. Qui permettent en tout cas d'accéder à des choses malgré mon handicap. Et donc je pense que je vais le signaler. Et non, j'ai pas de gêne là-dessus ou pas de. Pas ce problème, non.
Et là, à l'instant, tu parlais des aides. C'est quoi ces aides?
Les tire-temps, okay. Les. Voilà. Les tire-temps, tous les aménagements plutôt.
Ok. Mais c'est pas des aides, je sais pas, genre des quotas pour entrer dans certaines écoles ou.
Alors, non, je crois pas. Je crois pas que t'as. Enfin, peut-être, hein, mais je suis pas. Je sais pas si ça existe.
Et enfin, est-ce que tu aurais une recommandation d'ouvrage au sens très large, que ce soit littéraire, filmographique, musical, un peu tout ce que tu veux, qui soit t'a aidé ou en tout cas permis de comprendre, voire d'accepter ta différence, ou simplement une œuvre que tu aimes bien et que tu voudrais partager?
Alors, pas forcément à comprendre ma différence ou à l'accepter. Mais non, une œuvre une BD, c'est la BD d'Alain Passard, qui est un chef français qui cuisine principalement le légume, et c'est une BD qui en fait retrace un peu une journée d'un journaliste dans les cuisines d'Alain Passard et qui met un peu en lien les techniques culinaires, et à côté c'est un peu raconté aussi de manière poétique sur des textes autour de plats de Alain Passard. Et donc, cette BD.
Ce qui du coup m'amène à une dernière question qui n'était pas prévue, désolée. Mais cette question de, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives quand même à apprécier les livres et tout ce qu'il y a autour de la littérature malgré ta dyslexie?
Alors, non. Non, parce que en fait ça demande un tel effort de lecture, une telle fatigue, que en fait j'y arrive plutôt, je me tourne plutôt vers le livre audio, qui est une manière pas forcément de lire, en tout cas, mais en tout cas de découvrir des œuvres littéraires sans être en fait au bout d'un chapitre complètement épuisé et incapable de continuer.
Et du coup, est-ce que tu aurais un livre audio qui t'a particulièrement marqué ou que tu as apprécié et que tu pourrais partager?
Alors, grâce à ce livre audio, j'ai écouté les Harry Potter. Et donc, c'était vachement chouette de me dire, parce que ma sœur les a tous lus. Et elle me parlait un peu de ce monde féerique, machin, et de pouvoir découvrir aussi ce truc, enfin tout cet univers du livre de Harry Potter en livre audio. Et donc, c'est un peu ça aussi ma découverte grâce au livre audio.
Merci beaucoup Paul pour avoir répondu à mes questions. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était Indifférence, l'émission consacrée au handicap invisible, diffusée sur Transistor et produite par Marie Brunner.